Alors, dans le temps qui reste encore ce matin, nous allons rester dans le même passage qu'on a lu justement mercredi soir dans la réunion de prière en Luc chapitre 7. Sauf que ce matin, nous allons regarder un autre aspect de ce passage. Donc, Luc chapitre 7, à partir du premier verset. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entre dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Et ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le témoignage du verset 9 va être notre point de départ ce matin, un témoignage impressionnant de la part de Jésus que je pense tous nous aimerions entendre pour notre compte. Jésus admira le centenier et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Si on aimerait entendre de telles choses, il était intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y avait chez ce centenier qui méritait un tel témoignage de la part de Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il avait impressionné à ce point? Je pense qu'il y a au moins deux choses dans ce passage qui suscite un tel témoignage de la part de Jésus, qui frappe Jésus tellement. Il y a la réponse pratique de la foi du centenier qui est convaincu, comme on l'a vu mercredi soir, qu'un seul mot de la part de Jésus sera suffisant pour que son serviteur soit guéri. Mais je pense qu'il y a également le descriptif de Jésus. La reconnaissance de Jésus par ce centenier, reconnaissance sur laquelle est bâtie la foi qui lui donne la conviction que Jésus est capable de guérir son serviteur. Descriptif qui est dans le verset 7 et 8. Quoique je vous avoue que quand j'étais jeune et que j'ai lu ce passage les premières fois, j'étais un peu perplexe devant ce texte. J'avais l'impression que Jésus passait de coq à l'âne, ou plutôt que le centenier passait de coq à l'âne et que sa réponse n'avait rien à voir avec sa demande. Parce qu'il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Bon, d'accord, car je crois que tu es capable de le faire, ou je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais non, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. J'ai lu ce texte, je me suis dit, bon, très bien, très intéressant sans doute historiquement de savoir, de connaître le fonctionnement de l'armée romaine, mais il n'a pas perdu un petit peu le fil. Bon, il avait peut-être un peu la même condition que le président américain, mais bon. Et puis, avec le temps, en réfléchissant, je me suis rendu compte pourquoi Jésus a dit ce qu'il a dit par la suite. Pourquoi Jésus a été tellement impressionné. Moi, j'aurais dit, mais il a un peu perdu la fibre. Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il est impressionnant, cet homme. Même parmi le peuple élu, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait aussi bien compris les choses que lui. Donc finalement, c'était moi qui n'avais rien compris. Cet homme, donc, était centenier ou centurion de l'armée romaine, donc officier de l'armée, avec sous sa commande une troupe de, ben, ça dépendait, entre 80 et 100 soldats, avec une certaine importance, relative, on va voir, mais une importance au moins pour ces 80 à 100 soldats à qui il pouvait dicter leur comportement. Il pouvait leur donner des ordres. Et ces soldats devaient obligatoirement répondre à ces ordres. Mais en fait, ce que cet officier souligne dans ce qu'il dit à Jésus, c'est qu'il reconnaît que l'autorité qu'il a de dire à l'un « va » et il doit y aller, et à l'autre « viens » et il soit obligé de venir, cette autorité ne venait pas de lui-même. Juste sa personne. S'il croisait ces mêmes personnes, ces mêmes hommes dans la rue, hors uniforme, quand lui, il n'était plus au service, il n'avait pas l'autorité innée en lui de leur dire bah, « voici ce que vous allez faire maintenant ». S'il pouvait leur donner des ordres, c'est parce qu'il était officier de l'armée, il était dans une structure, il y avait des officiers plus haut gradé au-dessus de lui, et si jamais le soldat refusait d'obéir à ses ordres, lui, il avait l'autorité donnée par ses supérieurs d'exacter des punitions. Ou il pouvait contacter ses supérieurs et dire « il va falloir faire quelque chose, il va falloir punir ce soldat, car il désobéit à mes ordres ». Et puis, au-dessus de cette structure d'officier au-dessus de lui, parce que finalement, il était officier, certes, mais en toute structure gardée, il y avait apparemment 60 centurions dans chaque légion romaine de l'armée. Donc lui, il n'était qu'un sur 60, et dans l'armée romaine, il y avait 25 légions, chacune avec 60 centeniers. Donc finalement, son autorité n'était pas absolue, ne dépendait pas de lui, de sa personne, mais puisqu'il faisait partie, il jouait un rôle particulier dans cette structure d'armée qui rendait des comptes finalement à l'empereur, qui représentait l'empereur. D'autant plus dans cette structure coloniale où donc l'armée romaine était la puissance sur place. Il avait une autorité sur ce qui se passait à cause de sa place dans l'Empire. Puisque lui, il était dans cette structure avec des supérieurs, et au-dessus de ses supérieurs, l'empereur. Et donc finalement, quand il était en uniforme, en train de donner des ordres en tant qu'un centenier de l'armée, il portait en lui toute l'autorité de tout l'Empire romain, y compris l'empereur, car ça avait été transmis à lui pour donc être le représentant de toutes ces autorités. Donc ne pas répondre aux ordres, ne pas obéir finalement, c'était se rebeller contre toute cette autorité et finalement contre l'empereur lui-même. C'est de là que venait l'autorité de cet homme. Et donc cet homme qui vivait dans cette structure, il a entendu parler de Jésus. Ce texte nous montre que ben, c'était sans doute un Romain qui était quand même tourné vers la foi juive, vers la religion juive, qui cherchait à connaître et à adorer le Dieu d'Israël, qui reconnaissait le Dieu d'Israël comme le vrai Dieu. Il a entendu parler de Jésus, sans doute dans la synagogue et avec les autres juifs, et il a dû réfléchir au sujet de ce Jésus. Il avait sans doute entendu dire que ce Jésus était lui aussi connu pour son autorité. En Matthieu chapitre 7, verset 28, il est dit qu'après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Les gens reconnaissaient en lui une autorité. Marc chapitre 1, verset 27. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce que ceci ? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Cet homme donc était habitué à des questions d'autorité, et voilà qu'il entend parler de Jésus qui a une autorité que n'a personne d'autre, même chez les Juifs à cette époque. Et donc, si Jésus était connu pour son autorité, il y avait une question clé que tout le monde devait se poser et qui est articulée en Luc chapitre 20, versets 1 et 2. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses ?» Ou « Qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» C'est la question clé. Jésus avait une autorité que les autres n'avaient pas. Donc tout le monde, jusqu'aux sacrificateurs et aux scribes, se posait la question « Mais d'où vient cette autorité ?» D'où, qui t'a donné cette autorité ? Finalement, les sacrificateurs auraient très bien pu aller voir le centurion romain et lui poser la question, car lui, il avait compris sous quelle autorité Jésus faisait ce qu'il faisait et qui lui avait donné cette autorité. Finalement, c'est ça le sens de cette phrase où, au début, moi, je croyais qu'il divaguait. C'était pas, il divaguait pas du tout. En fait, il avait percé le secret de l'autorité de Jésus. Il avait compris qui était Jésus. En Matthieu chapitre 16, verset 13, Jésus pose une question à ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Les gens, qui est-ce qu'ils croient que je sois ? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Amen.
Mais finalement, par ces propos, on se rend compte que le centurion romain avait aussi reçu cette même révélation de la part de Dieu. Il avait réfléchi au sujet de Jésus et Dieu lui a permis de comprendre comment Jésus pouvait enseigner et exercer une telle autorité. Il a compris qui était Jésus. En fait, la réponse à cette question de Jésus, qui suis-je au dire des hommes ? Moi, le Fils de l'homme, moi, un homme devant vous, qui suis-je ? Jean, chapitre 1, verset 14, nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans l'incarnation, Dieu, la parole éternelle, s'est faite chair. Jésus s'est présenté devant eux comme un homme, en vrai homme, nous dit la Bible. Cette parole éternelle dont il est question dans Jean 1 et 2, il est devenu être humain. Philippiens chapitre 2 en parle en nous disant, existant en forme de Dieu, Jésus-Christ n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme quelque chose auquel il fallait à tout prix s'accrocher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il a pris un corps humain qui pouvait se fatiguer, qui devait dormir, qui devait manger. Pour eux, c'était un homme. Ils le voyaient devant eux. Donc, les gens, quand ils me voient, cet homme devant eux, qui suis-je selon eux? C'est aussi un mystère lié au mystère de la Trinité. Un Dieu seul, unique, et pourtant Père, Fils, Saint-Esprit, un Dieu, trois personnes, avec chacun son rôle, chacun sa nature. Philippiens 2, la suite, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cette parole éternelle, qui au commencement était avec Dieu, qui était Dieu, s'est fait être humain, s'est lié à l'humanité, mais tout en prenant un corps humain, tout en prenant notre nature pleinement, a aussi reçu l'autorité de la part du Père éternel. Cette première personne de cette Trinité qui forme la personne de notre Dieu. Et Jésus avait toujours dit que dans sa présence sur terre, en tant qu'être humain, il pouvait parler et agir avec autorité parce qu'il obéissait parfaitement au projet de son Père, cette première personne de la Trinité, l'Éternel. Jean 8, versets 28 et 29, Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et vous connaîtrez que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Qu'est-ce que la Trinité et l'incarnation sont difficiles pour nous, êtres humains, avec nos limitations, avec nos petits cerveaux, à saisir ce que Jésus est, ce qui est réellement le Seigneur, notre Dieu. Et pourtant, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu comme les dieux grecs ou romains, cette espèce de surhumain sur terre. Il a pris pleinement la nature humaine et pourtant, il avait une autorité qu'aucun autre être humain à son époque n'avait, parce que donc, il est venu avec l'autorité qui lui avait été donnée par le Père. Jean 5, verset 19, Jésus reprit la parole en disant, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » ceux qui disent que, oui, d'accord, Jésus a existé, mais il n'était qu'un homme. Après, les apôtres ont voulu faire quelque chose de plus, mais il n'était qu'un homme. La Bible nous dit le contraire. Oui, il était un homme, mais il n'était pas qu'un homme. Il était un homme rempli du Saint-Esprit, ayant reçu toute l'autorité du royaume de Dieu par son Père. Comme Dieu l'annonce dans Psaume 2, verset 6, quand il dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Le Créateur, seul Dieu, nous dit la Bible, a donné toute autorité au Fils, qui peut donc exercer tout pouvoir et toute autorité. Pour ça, quand Matthieu 28, 18, Jésus peut dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est en fait exactement la même chose que le centurion romain a dit à Jésus. « Tout pouvoir t'a été donné. » Moi, j'ai le pouvoir de donner des ordres parce que ça m'a été donné par l'empereur à travers mes supérieurs. Tu as tout pouvoir de faire ce que tu veux parce que ça t'a été donné par ton Père. Éphésiens chapitre 1 parle également du fait que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus est largement au-dessus de tout. Tout à l'heure, on a chanté que nous voulons élever son nom au-dessus de tout esprit méchant. Ça, quelque part, c'est la partie facile. Il est aussi au-dessus de toute personne bien, de tout héros, de toute personne qu'on admire. Il est au-dessus de tout. Parce que le Père lui a donné ce rôle dans son plan, dans son royaume. Il est son représentant. Donc, Jésus est impressionné de se rendre compte que le centurion a percé le secret de qui il est et de comment il exerce une telle autorité. Et pour ça, il peut dire, même en tout Israël, je n'ai jamais trouvé une foi pareille, les sacrificateurs viennent me demander, mais d'où vient ton autorité? Lui, il a compris d'où vient mon autorité. Ça m'a été donné du Père. Et puis donc, il admire aussi la foi pratique de ce centurion qui découle de cette reconnaissance de qui est Jésus. Il reconnaît que cette autorité, si Jésus a cette autorité, ça aura des implications pour sa vie et la vie des autres. Il dit, « Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Car tu as reçu de la part de Dieu d'Israël toute autorité, tout pouvoir pour le représenter sur la terre et pour accomplir sa volonté. Il y a un danger subtil qui nous guette en tant que chrétiens, le danger de ne jamais relier les points entre ce que nous croyons et la réalité de notre vie. De lire la Bible, de venir à l'église et d'écouter les choses, de croire certaines choses, de croire qu'il y a des choses qui sont vraies, au point de pouvoir répondre à toutes les questions des quiz bibliques de Jethro, ou tout questionnement sur notre connaissance biblique, mais avec le problème que nous laissons ces connaissances enfermé dans l'histoire d'il y a 2000 ans ou plus, dans l'époque biblique. Oui, je crois qu'il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a reçu toute autorité. ou de le laisser enfermer dans une connaissance théologique, théorique, où oui, nous croyons que Dieu est ce Dieu trinitaire, qu'il a envoyé Jésus sur la terre avec toute autorité, mais où nous oublions de méditer la parole pour l'appliquer à notre vie et dire, mais si Jésus est réellement le Fils de Dieu, s'il est réellement Dieu fait chair, s'il est réellement celui à qui le Père a donné toute autorité, alors ça veut dire qu'il peut faire des choses. Il a de l'autorité dans ce monde, il a de l'autorité sur ma vie. Alors oubliez de relier les points, ça n'a rien de nouveau. Déjà Jésus était obligé de parler à ses disciples du fait qu'eux aussi, ils oubliaient de relier les points. Matthieu 6, verset 28. « Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, » Jésus dit, « Vous croyez que c'est Dieu qui rêvait l'herbe des champs, n'est-ce pas, qui a tout créé ?» Alors si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Vous avez oublié de relier les points, dit Jésus. Vous croyez que c'est Dieu qui a tout créé, donc vous croyez que c'est Dieu qui prend soin de la nature, mais vous avez oublié que s'il est capable de prendre soin de l'herbe qui a beaucoup moins de valeur que vous, alors il est aussi capable de prendre soin de vous. S'il se donne tellement de la peine pour les fleurs, il va le faire aussi pour vous. Donc, reliez les points, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Les fleurs ne s'inquiètent pas en disant, oh, mais qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui ? Je n'ai rien à porter. Il dit, Dieu en prend soin. C'est comme ça. Donc Dieu prendra soin de vous. Si les choses que nous croyons sont vraies, si Jésus est vraiment celui qui a reçu tout pouvoir, toute autorité, rien ne lui est impossible. Le rien n'est exclu. Rien ne pourra frustrer l'accomplissement de ses projets, ni dans le monde, ni dans ma vie, car il est souverain sur ma vie. Personne d'autre, rien d'autre que lui, car il a reçu cette autorité de la part du Père. Donc soit ce que nous disons croire n'est pas vrai, soit c'est vrai, et cela impacte totalement notre vie tous les jours. Pour le centenier donc, si Jésus est celui que je crois, il est capable de juste dire un mot. Il n'a même pas besoin de venir et imposer les mains et faire toutes sortes de choses. Un seul mot de sa part suffira, parce qu'il a reçu toute autorité de la part du Père. Si donc nous aimerions bien que le Seigneur nous admire aussi et puisse dire, tu sais quoi, j'ai rarement vu une foi pareille. Il est donc important de laisser le Saint-Esprit nous enseigner par la Bible qui est notre Dieu, nous montrer qui est Dieu. C'est important de réfléchir aussi sur ce que nous lisons, sur ce que nous entendons, pour se rendre réellement compte de qui est notre Dieu. C'est la base de tout, de le connaître, lui. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Il est, si ce que dit la Bible est vrai, notre Créateur et celui qui soutient toutes choses. Il est notre Sauveur. Il est celui qui pourvoit. Il est l'Éternel qui guérit, il est le Dieu qui justifie, il est le Dieu qui sanctifie, il est le Dieu qui règne sur tout l'univers y compris nos pays aujourd'hui. Il est souverain sur toute la terre. Les choses ne sont pas hors de contrôle. Ce n'est pas le chaos total partout. C'est Dieu qui utilise les circonstances pour accomplir son projet, pour préparer le retour de son Fils. Car il est celui qui revient. Il est celui qui jugera chaque être humain et à qui nous aurons des comptes à rendre. Il est celui qui règnera éternellement depuis Sion. Et puis, nous devons donc laisser le Saint-Esprit non seulement nous enseigner ces vérités, mais les traduire en nous montrant ce que cela implique pour ma vie, pour mes circonstances, pour transformer ma vie, pour que là aussi, la vie du Seigneur soit manifestée dans ma foi et que ma vie proclame qui est notre Dieu. Ce centurion, il avait compris qui était Jésus, il avait donc tiré les conclusions de ce que cela voulait dire, et donc Jésus l'admira et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Que cela puisse aussi un jour parler de nous et être l'attitude, la vie de Dieu sur nous.